Vous écoutez On lit pour vous.
Les ressources intermédiaires d'hébergement sont à un point de rupture. Un texte de Patrice Bergeron de la presse canadienne, paru le 12 février 2025 dans Le Devoir. Le réseau des RI, les ressources intermédiaires d'hébergement, est chancelant et arrive à un point de rupture, ce qui pourrait mettre en péril les soins à une clientèle de près de 20 000 personnes vulnérables, malades, handicapées, âgées ou toxicomanes. Près de la moitié des responsables, 43 % de ces installations, songent à fermer d'ici à 3 ans s'il n'y a pas une hausse substantielle du financement accordé par l'État, déplore l'association qui représente les RI. C'est un scénario catastrophe qui risque de se produire, a prévenu la députée libérale Linda Caron, responsable du dossier des RI, qui souligne que cette clientèle qui a des besoins particuliers n'a nulle part d'autre où aller. « C'est super inquiétant », a-t-elle ajouté, dans une entrevue avec la presse canadienne diffusée le mercredi 12 février 2025. Les RI reçoivent près de 1,2 milliard de dollars en financement par an, a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors que la demande de places sera en croissance au cours des prochaines années, l'expansion du réseau des RI est bloquée, au profit de modèles beaucoup plus chers comme les maisons des aînés ou des places accordées de gré à gré en résidence privée pour aînés, RPA. C'est le constat de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement, ARIHQ, alors que l'organisme s'apprête à renégocier une entente de financement avec le Conseil du Trésor venant à terme le 31 mars 2025. Le réseau des RI avait formulé une demande d'aide urgente en 2024 en raison de l'inflation, mais elle n'a pas été entendue par le gouvernement. Insécurité et impatience. Il y a beaucoup d'insécurité et d'impatience parmi les gestionnaires des RI, a affirmé le président du conseil d'administration de l'ARIHQ, Carl Veilleux, en entrevue avec la presse canadienne. Le réseau de ses partenaires hyper important et chancelant, a-t-il ajouté, tandis que Mme Caron affirme qu'il arrive à un point de rupture, selon elle. C'est que les coûts d'exploitation, que ce soit l'alimentation, les salaires, les assurances, ont progressé beaucoup plus vite que les indemnités quotidiennes offertes dans l'entente 2020-2025 conclue avec le gouvernement en raison de l'inflation durant la pandémie. Une détresse. Les coûts ont ainsi explosé et les propriétaires de RI vivent une détresse financière, a précisé M. Veilleux, en ajoutant que les marges de manœuvre diminuent. L'indexation cumulative de la rétribution des RI depuis 2021 pour leurs coûts d'exploitation a été de 15,3% dans l'entente nationale, soutient la RIHQ. Dans un sondage mené par l'association auprès de ses membres en novembre 2024, ils ont indiqué que leurs coûts d'exploitation ont plutôt augmenté de 36 % pendant cette période. La charge salariale à elle seule a augmenté de 29 % et néanmoins, les salaires ne sont pas concurrentiels par rapport à ceux du réseau de la santé malgré une prime d'atténuation. Pas de développement. Et comme l'indemnité immobilière versée par le gouvernement n'a pas augmenté non plus, elle ne suit plus les coûts de construction de nouvelles unités en RI. Conséquence, à partir de 2021-2022, le nombre d'appels d'offres annulés pour de nouvelles RI a grandement dépassé le nombre de contrats conclus. Et donc, le nombre de places annulées surpasse aussi le nombre de places créées. Exemple, 40 places ont été créées en 2023-2024 contre 434 annulées. On accorde donc des contrats de gré à gré à des RPA pour héberger des personnes qui devraient être en RI et cela coûte beaucoup plus cher, s'inquiète le représentant des RI. Si des RI ferment par manque de financement, sans que d'autres RI ouvrent, alors qu'il faut au moins 2 ans pour bâtir un nouveau projet d'unité, on s'en va vers un mur, prévient Mme Caron, en réclamant une bonification majeure du financement. Pourtant, le modèle des RI représente un potentiel d'économie considérable, fait valoir M. Veilleux, qui gère lui-même une RI pour les personnes âgées. À titre d'exemple, le coût estimé d'une maison des aînés est de 1 million par porte, tandis qu'il est de 300 000 $ la porte en RI. On est le mode d'hébergement le moins cher qui offre le plus haut niveau de qualité, a-t-il assuré, en rappelant que les RI ont été cités comme des modèles pendant la pandémie pour leurs mesures de contrôle des éclosions et leurs bateaux de mortalité. À la période de questions, mardi le 11 février 2025, le ministre responsable Lionel Carman a pour sa part laissé entendre qu'il était en discussion intensive avec différents regroupements de ressources intermédiaires. On travaille avec le ministère sur un plan clair pour rehausser le financement de ces ressources intermédiaires, a-t-il commandé. On travaille sur tous les paliers, bureaucratie, cadre de référence et négociation. M. Veilleux ne s'est pas risqué à chiffrer précisément ses demandes ou énoncer l'ensemble de ses revendications dans les négociations à venir. Il a laissé entendre qu'il y a une bonne écoute des deux ministres responsables, Lionel Carman aux services sociaux et Sonia Bélanger aux aînés, mais ça a toujours bloqué au Conseil du Trésor. Elle doit contrôler les dépenses dans un contexte où le déficit du gouvernement devrait atteindre un record de 11 milliards de dollars en 2024-2025. Selon les données de l'ARIHQ, il y a 1136 RI au Québec qui offrent un total de 19 639 places. Presque 12 000 d'entre elles sont offertes aux personnes âgées, 3 667 aux personnes en déficience intellectuelle, 3 757 aux personnes qui ont des troubles de santé mentale. C'était « Les ressources intermédiaires d'hébergement sont à un point de rupture », un texte de Patrice Bergeron de la Presse canadienne, paru le 12 février 2025 dans Le Devoir.
Les violents ne savent pas faire l'amour, un texte de François Champoux, paru le 14 février 2025 dans La Tribune. Je reconnais volontiers que ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour écrire le titre ci-dessus, une vraie lapalissade, surtout le jour de la Saint-Valentin. Et pourtant, il est de notoriété historique que toutes les personnes dont l'histoire a reconnu les gestes d'une violence pouvant causer jusqu'à la mort de l'autre ne savaient pas aimer, ne savaient pas faire l'amour. Faut-il penser alors qu'aimer peut s'apprendre? Absolument. L'amour, l'art d'aimer, s'apprend, et pratiquement personne ne l'a appris, encore moins les violents, assurément. Il y a des maximes prononcées depuis des siècles auxquelles on n'a pas pris soin de bien saisir la portée. Je pense à ces deux-ci que bien des despotes sont heureux de nous rappeler pour justifier leurs gestes brutaux, leur force excessive contre des personnes qu'ils n'arrivent pas à respecter. Qui aime bien, châtie bien. Et cet autre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Quand on s'arrête un instant sur la formulation de ces aphorismes, peut-on vraiment reconnaître leur justesse? Châtier un enfant ou un adulte, est-ce reconnaître là dignement sa capacité de comprendre depuis qu'il a atteint l'âge de raison comme nous-mêmes? Bien sûr que non. A-t-on déjà vu un animal châtier sa progéniture? Oseriez-vous me dire que c'est justement là la différence entre un humain intelligent et un animal? L'humain châtierait, alors que l'animal n'y penserait même pas. Est-ce vraiment honorable pour un être humain de châtier un de ses semblables? N'est-ce pas qu'il faut changer ce verbe? Éduquer ne serait-il pas plus approprié? Éduquer pour aimer ou l'inverse, aimer pour éduquer. Qui aime bien, éduque bien. N'est-ce pas que ça sonne mieux? Quant à la seconde maxime, c'est Théodore Monod qui l'a bousculée à juste titre en nous rappelant que les latins qu'il avait écrites avaient vécu en guerre pendant plus de 2 siècles. Il précisa que si tu veux la paix, tu dois préparer la paix. N'est-ce pas que ça explique pourquoi il y a autant de discordes sur cette planète? Apprendre à aimer. Mais alors, si nous vivons en paix et sans violence, est-ce parce que nous savons faire l'amour? En partie, oui, mais nullement complètement. De fait, nous devrions apprendre à aimer, dans tous les sens du terme, afin de faire tout le temps l'amour. C'est plaisant de faire l'amour. Imaginez si nous le faisions à toute heure du jour. Car oui, faire l'amour devrait se faire le jour plus que la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir et régénérer nos forces pour être actifs le jour. Travailler et aimer, nous disait Freud. Soigner et aimer, m'a appris la psychiatre et poète Wanessa Yunsi dans son livre du même titre. Aimer, c'est exigeant. C'est d'ailleurs notre premier devoir et envers soi d'abord. Ce n'est point là un précepte religieux, c'est la première règle de la vie, de l'existence de tout être, s'aimer soi-même pour exister et aimer à notre tour. Aimer son prochain comme soi-même. L'amour, l'art d'aimer, c'est ben de l'ouvrage. Mais pour éliminer la violence, les guerres, il faut apprendre à faire l'amour. C'est d'ailleurs ce que j'ai découvert dans ce livre du philosophe Jacques Sénécal, « Le cerveau amoureux », où il précise ceci en page 107. « Mais hélas, on n'a pas appris à aimer, on n'a appris qu'à défendre son ego. » Il y a effectivement un apprentissage à faire. Marier l'ego avec l'autre, un sain égoïsme marié avec l'altruisme. Tout un art à apprendre et à pratiquer tous les jours. Et d'ajouter le philosophe, voilà tout le problème. L'humanité a-t-elle atteint l'âge de raison pour apprendre à faire l'amour? Je veux être un amant de premier plan et non pas de second ordre. Simplifier sa vie, c'est apprendre à s'aimer soi-même pour aimer tout. Sinon, on complique. L'antidote à la violence, l'amour, une évidence. C'était « Les violents ne savent pas faire l'amour », un texte de François Champoux, paru le 14 février 2025 dans La Tribune.
Une ère de feu, de Los Angeles à Chibougamau, un texte de Alexis Riopel paru le 10 février 2025 dans Le Devoir. Né en 1949, Stephen Pine a été pompier forestier puis est devenu le principal historien du feu aux États-Unis. Il a publié des dizaines d'ouvrages sur le sujet, dont le plus récent, The Pyrocene, University of California Press, en 2021. Après les feux de Los Angeles, Le Devoir s'est entretenu avec ce professeur émérite de l'Université d'État de l'Arizona. Les feux Palisades et Eaton à Los Angeles ont tué au moins 29 personnes et détruit plus de 16 000 bâtiments. Avez-vous été surpris par cette catastrophe? L'ampleur de ces feux m'a surpris, même si je savais très bien qu'ils pouvaient survenir à Los Angeles. La Californie du Sud est bâtie pour brûler. Son climat méditerranéen est idéal pour les incendies. Ses vents sont très puissants. Grâce à du charbon de bois dans les sédiments marins, nous savons que des incendies majeurs y avaient lieu bien avant l'arrivée de l'humain. Cela dit, depuis la colonisation, notre manière d'occuper le territoire a grandement aggravé le problème. On se retrouve cette année avec des dégâts abasourdissants. La reconstruction sera très complexe car ce n'est pas qu'une question d'argent. Il faudra aussi se mettre d'accord sur quoi faire, qui paye, qui décide. Pensez-vous que ces feux vont bousculer l'opinion américaine sur les risques posés par le feu et le changement climatique? Plusieurs villes ont brûlé en Californie dans la dernière décennie. Mais dès que les flammes n'affectent plus le quotidien des gens, que la fumée ne les incommode plus, ils passent à autre chose. Feu après feu, rien ne change. On ne saisit pas la possibilité de reconstruire sur de nouvelles bases, comme Londres ou Chicago l'ont fait par le passé. Pourtant, avec le même modèle urbain, la catastrophe va se reproduire. Avec les changements climatiques, c'est d'autant plus certain. Dans ce pays, combien d'écoles ont été attaquées sans que nous ayons une discussion sérieuse sur le contrôle des armes à feu? Il semble que nous soyons prêts à subir beaucoup de punitions avant d'agir en adulte. Je n'ai aucune raison de penser que les choses changeront miraculeusement parce que la cour arrière d'Hollywood a brûlé. Vous avez inventé le concept de pyrocène, qui fait la distinction entre trois types de feux. Voulez-vous nous en dire plus? Avec le concept de pyrocène, je m'intéresse à l'histoire profonde. Je fais remonter le début de cette époque au lendemain de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui s'inscrit dans cette longue saga, celle de l'humanité et du feu. Le premier type de feu existe indépendamment de l'humain. Il est apparu il y a 420 millions d'années, quand les premières plantes ont poussé sur la terre ferme. Il n'a rien d'étranger à notre planète. Le deuxième type de feu est apparu avec les hominidés qui ont découvert comment l'allumer à leur convenance. Avec cet outil, nous avons agrandi le domaine du feu sur la planète, nous avons modifié le climat, nous avons remodelé la biosphère. Mais cela ne nous suffisait pas. Pour trouver une nouvelle source de combustible, nous avons commencé à puiser dans le passé géologique, exhumant des paysages fossilisés. Ainsi est né le troisième type de feu. Celui-ci ne connaît pas de limite. Il ne dépend pas des saisons. On peut le faire brûler jour et nuit, été ou hiver, par temps sec ou humide. Contrairement aux deux premiers, il ne s'inscrit pas dans une longue histoire écologique. Nous avons extrait quelque chose d'un passé immémorial, le libérant dans le présent. Or, il n'a pas sa place ici. Vous avez déjà écrit que nous sommes actuellement en train de créer l'équivalent d'une ère glaciaire, mais avec le feu. Parler d'une ère de feu est ma réponse à ceux qui disent que nous n'avons pas d'analogue pour l'avenir. L'avenir qui nous attend est si étrange, si différent, que nous avons du mal à imaginer des scénarios pour nous guider. Pourtant, prenez une période glaciaire, passez toutes ses caractéristiques à travers une sorte de miroir pyrrhique, et qu'est-ce qui ressort de l'autre côté? Des extinctions massives, une variation du niveau de la mer, des changements climatiques, des calottes glaciaires en mouvement. Voilà l'ampleur des métamorphoses devant nous. Avec le feu d'Hawaï en 2023 et maintenant celui de Los Angeles, voyons-nous le retour des grands feux urbains? Oui. Durant la colonisation de l'Amérique du Nord, les villes avaient tendance à brûler aussi souvent que les campagnes. Elles étaient faites des mêmes matériaux, soumises aux mêmes vents, aux mêmes sécheresses. Et les sources d'allumage ne manquaient pas, on faisait des feux partout. Cela s'est finalement calmé au début du XXe siècle, avec l'avènement de l'électricité et de meilleurs codes de construction. Puisque le problème semblait avoir disparu, nous avons abandonné nos bonnes habitudes d'hygiène pyrrhique, laissant le combustible naturel s'accumuler. Et les incendies urbains ont commencé à réapparaître vers la fin du siècle. Lors d'événements de ce type, les feux commencent à la périphérie d'une ville. Ensuite, les étincelles le propagent de maison en maison. Le combustible, ce sont les résidences. Sur certaines photos de l'incendie de Palisades, on voit des bâtiments incinérés et, juste à côté, des bandes entières d'arbres. S'il s'agissait d'un incendie de forêt, ces arbres auraient brûlé. Aux États-Unis et au Canada, le problème, c'est que les gens s'installent dans des zones propices aux incendies. En Europe, c'est l'inverse. Les gens quittent les zones rurales et plus personne n'entretient le paysage qui accumule alors du combustible. Dans les régions très propices au feu comme Los Angeles, devrions-nous penser à déménager certains quartiers? Je pense que ce serait une approche rationnelle. Les Australiens explorent cette voie dans certaines de leurs zones à haut risque. Cependant, je ne vois pas Los Angeles abandonner la zone de Pacific Palisades pour en faire un parc. Il faut loger les gens, et les États-Unis ont un très mauvais bilan en matière de déménagement des populations à risque, dont celle des zones côtières soumises aux ouragans et à la montée du niveau de la mer. Il semble que nous ne soyons pas rendus là, ni dans ce pays, ni en Europe. Le Portugal, l'Espagne, la Grèce, la France, ils savent très bien quel est le problème, qu'il nécessite un nouvel aménagement du territoire et une nouvelle manière d'y vivre. Mais jusqu'à présent, la réponse aux catastrophes, c'est toujours plus d'avions, plus de camions, plus de pompiers. Est-il encore possible d'éviter de plonger dans une ère de feu? Je pense que nous y sommes déjà. Nous avons tellement perturbé le climat que nous avons perdu le contrôle. Mais nous pouvons commencer à le reprendre. J'ai trois conseils pour l'avenir. Premièrement, nous avons trop de mauvais feux qui brûlent les villes, tuent des gens, détruisent la nature. Nous devons les éliminer autant que possible. Deuxièmement, nous avons trop peu de bons feux. Le feu a longtemps été le compagnon le plus fidèle de l'humain. Nous devons permettre au feu de recommencer à jouer ses rôles naturels, dont celui de limiter l'accumulation de combustible naturel. Et troisièmement, nous devons arrêter de brûler des combustibles fossiles. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. C'était « Une ère de feu » de Los Angeles à Chibougamau, un texte de Alexis Riopel, paru le 10 février 2025 dans Le Devoir.
Les 15 emplois les plus recherchés en 2025. Un texte d'Alex Fontaine paru le 4 février 2025 dans Le Devoir. L'entreprise de recrutement Randstad a dévoilé en février 2025 son palmarès annuel des 15 emplois les plus recherchés au Canada. Pour attirer les candidats, les employeurs devront offrir plus de flexibilité aux travailleurs, selon la firme. L'emploi d'assistant administratif occupe la première position du classement 2025 de Randstad. Suivent ceux de comptable, d'associé aux ventes, de représentant au service à la clientèle et de réceptionniste. On retrouve aussi dans le palmarès les métiers de journalier, d'opérateur de chariot élévateur et d'ouvrier d'entrepôt, entre autres. Ce qui est particulier pour 2025, c'est une demande accrue pour les rôles administratifs et les rôles de soutien, constate Marie-Pierre Bédard, vice-présidente chez Randstad Canada. Ces emplois ont subi de grandes transformations ces dernières années, notamment en raison de la montée de l'intelligence artificielle, explique-t-elle. Cela dit, même si certaines tâches sont de plus en plus automatisées, il y a des choses qu'on ne peut pas automatiser, relate Mme Bédard. Les emplois qui impliquent la gestion de relations humaines doivent donc toujours compter sur des employés en chair et en os, et ces personnes sont très recherchées. Quand il y a une forte demande, c'est signe que ces postes-là sont plus difficiles à combler. Pour rendre ces postes plus attrayants, les entreprises peuvent évidemment augmenter les salaires. Année après année, le salaire est d'ailleurs le critère le plus important qui motive un changement d'emploi, selon la vice-présidente. Plus de flexibilité. Mais le salaire n'est pas tout. Dans une autre analyse publiée par Randstad en 2024, l'équilibre travail-vie personnelle a rejoint le salaire au sommet des préoccupations des travailleurs. Les entreprises doivent donc s'assurer d'offrir de la flexibilité à leurs employés pour être compétitives en matière de recrutement, explique Mme Bédard. Pour une majorité des emplois dans le top 15, le télétravail n'est pas possible, précise la spécialiste en ressources humaines. En d'autres mots, ces postes-là ne sont pas toujours alignés avec la demande de flexibilité faite par beaucoup de travailleurs. La flexibilité, ce n'est pas seulement le télétravail, précise-t-elle. Par exemple, les employeurs peuvent offrir aux travailleurs un choix d'horaire, une semaine de travail condensée en 4 jours, des congés flottants et la possibilité de commencer leur journée de travail plus tard ou plus tôt. Les employeurs se doivent d'être un peu plus créatifs sur l'offre de flexibilité, pense-t-elle. Pas besoin d'un doctorat. La pénurie de main-d'œuvre n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. On le voit notamment par la baisse du nombre de postes vacants, mais elle est toujours une réalité dans plusieurs secteurs. Près d'un cinquième, 19,1% des entreprises s'attendent à ce que la pénurie de main-d'œuvre soit un obstacle au cours des 3 prochains mois, estimait Statistique Canada dans une analyse parue en décembre 2024. C'est près de 28% dans les secteurs des services d'hébergement et de restauration, de la fabrication et des services administratifs. Certains postes spécialisés sont aussi difficiles à pourvoir, comme celui d'électricien, qui se trouve au 14e rang des métiers les plus recherchés cette année. Il y a quelques années, on a beaucoup dévalorisé ces professions-là. On a encouragé les gens à aller faire un parcours universitaire. On a dévalorisé les professions plus techniques, le travail manuel, déplore Marie-Pierre Bédard. Les 15 emplois les plus demandés en 2025. Source Randstad. 1. Assistant administratif. 2. Comptable. 3. Associé aux ventes. 4. Représentant au service à la clientèle. 5. Réceptionniste. 6. Administrateur de bureau. 7. Journalier. 8. Camionneur. 9. Assistant de pharmacie. 10. Opérateur de chariot élévateur. 11. Ouvrier d'entrepôt. 12. Analyste financier. 13. Généraliste en ressources humaines. 14. Électricien. 15. Estimateur. C'était les 15 emplois les plus recherchés en 2025. Un texte d'Alex Fontaine paru le 4 février 2025 dans Le Devoir.